Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français de ce samedi 26 juillet 2025. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les samedis, sans surprise, on commence avec la rétrospective du jour.
Notre rétrospective du jour nous amène à parler du canal de Suez, l'une des voies maritimes les plus essentielles au monde. Situé en Égypte, ce passage stratégique ne se limite pas à un simple axe commercial. Il symbolise aussi des luttes de pouvoir, de souveraineté, des tensions géopolitiques qui ont marqué le XXe siècle. Et donc, le 26 juillet 1956, la décision du président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, de nationaliser le canal avait engendré une crise internationale majeure. On en parle avec François Ventomme.
Le canal de Suez a été construit par des intérêts principalement français et britanniques dans le but de faciliter le commerce maritime entre l'Europe et l'Asie. Le projet a été initialement conçu par l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps qui a dirigé la construction du canal entre 1859 et 1869. À l'époque, les routes maritimes étaient longues et souvent dangereuses, nécessitant le contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Le canal a donc permis de réduire considérablement le temps de trajet entre les ports de la Méditerranée et ceux de l'océan Indien. La société du canal de Suez, fondée par de Lesseps, était principalement financée par des investisseurs français, mais le gouvernement égyptien, alors sous contrôle ottoman, a également joué un rôle dans le développement du projet. À sa création, le canal était une propriété partagée entre la France et le Royaume-Uni, qui détenait la majorité des actions dans la société gestionnaire. Ces deux puissances ont ensuite exercé une forte influence sur la gestion du canal, exploitant ses revenus pour soutenir leurs intérêts coloniaux dans la région. Le 26 juillet 1956, la décision du président égyptien Nasser de nationaliser le canal a déclenché une crise internationale profonde. Dans son discours, il dénonce les conditions humiliantes imposées aux autres pays par l'Ouest. Selon lui, les choses doivent changer. À cette époque, les sentiments nationalistes et anticolonialistes étaient en pleine croissance dans de nombreuses régions d'Afrique et du Moyen-Orient. Au sein de cette dynamique, la nationalisation du canal symbolisait un acte d'affirmation de la souveraineté nationale. Pour Nasser, prendre le contrôle du canal était une question de dignité et de fierté nationale. Il voulait montrer au monde que l'Égypte était désormais maîtresse de son destin et indépendante des puissances coloniales. Un autre aspect central de la nationalisation était la nécessité de financer le développement économique. Nasser avait des ambitions de modernisation pour l'Égypte et le canal de Suez représentait une source de revenus cruciale. Il faut préciser que selon Nasser, cette nationalisation fait suite au refus des Occidentaux d'aider à financer le barrage d'Assouan. En annonçant la nationalisation, il a souligné qu'il avait besoin des profits générés par le canal pour financer la construction du barrage. Un projet essentiel pour l'irrigation et l'énergie. Ce barrage allait transformer l'agriculture égyptienne et améliorer le niveau de vie des Égyptiens. La nationalisation devenait donc un moyen de mobiliser des fonds pour réaliser ces projets ambitieux et contribuer au progrès du pays. La nationalisation est alors devenue un symbole de lutte contre le colonialisme, renforçant l'image de Nasser comme le héros dans le monde arabe. Nasser cherchait à s'affirmer comme leader du mouvement panarabe et du tiers-monde. Il rassemblait les pays, nouvellement indépendants, autour d'une vision commune de développement et de résistance. Sa nationalisation du canal de Suez a attiré le soutien de nombreux pays du tiers-monde et défié l'influence des puissances coloniales. Le State Secretary américain, Murphy, ne pouvait cacher son agacement lors d'une conférence de presse à Londres.
Have you brought any plan with you for action against Egypt? I can only say that we are going to engage in these conversations with our friends here and explore the matter. We haven't got to the point as yet of specific proposals.
What do you think of the idea of using force to protect Western projects in the Middle East?
Really, no comment on that at this stage.
Does your government now regret its decision not to help finance the Aswan Dam?
We have no regrets, no.
Finalement, les Britanniques et les Français décident de réagir à ce coup de force égyptien. Persuadés de leur bon droit, les chefs de gouvernement de la France et de l'Angleterre proclament qu'ils ne céderont pas à l'intimidation. Cette décision a rapidement conduit à la crise de Suez, une invasion par le Royaume-Uni, la France et un allié de poids dans la région, Israël, qui craignait également la montée en puissance de son voisin égyptien extrêmement menaçant. Plus de 60 000 hommes, 300 avions de combat et 6 porte-avions sont réquisitionnés afin de mettre au pas le leader égyptien. Après des premières opérations militaires victorieuses, les trois pays sont contraints de se replier sous la pression de l'URSS et des États-Unis. Ce conflit avait en effet intensifié les tensions au Moyen-Orient et créé une instabilité qui inquiétait les États-Unis, particulièrement en raison de la guerre froide et de la montée de l'influence soviétique dans la région. Les États-Unis craignaient que le chaos résultant du conflit ne favorise l'expansion soviétique et n'encourage d'autres pays à se tourner vers le communisme. Leur intervention visait à stabiliser la situation et à éviter que l'Égypte ne devienne un allié de l'Union soviétique. Ce tournant a souligné la montée en puissance des États-Unis et de l'Union soviétique dans les affaires mondiales, tout en catalysant le mouvement de décolonisation. Aujourd'hui, le canal de Suez revêt une importance cruciale pour le commerce international. Environ 12% du commerce maritime mondial transite par ce passage. Le canal appartient toujours à l'Égypte et est géré par l'autorité du canal de Suez. Il représente une source de revenus significative grâce aux droits de passage perçus sur les navires qu'il emprunte. Environ 8 milliards de dollars de recettes annuelles proviennent des frais liés à l'utilisation du canal, ce qui en fait l'une des principales sources de devises étrangères pour l'Égypte.
Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille. Des taches plein sa blouse, ses atteintes.
C'est France Gall qui fait partie de notre sélection musicale du mois de juillet 2025 avec la chanson Cézanne Pain. Restez sur SBS French, messieurs, dames, on marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite avec les nouveaux contenus sur SBS On Demand. Quelles sont les sorties francophones du mois de juillet sur la plateforme de streaming, le tout en accès gratuit. On fait le point dans un instant.
Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation sbs.com.au/french.
What's on SBS On Demand? Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. Watson SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver au mois de juillet? C'est parti! Si 6 films font leur entrée dans le catalogue ce mois-ci. Le premier s'appelle « Le procès du chien, Dog on Trial » en anglais, et raconte l'histoire d'une avocate qui va tenter de sauver un chien de l'euthanasie lors d'un procès hors norme.
Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées! Faites votre boulot!
Bon écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes la seule limite à tes rêves.
Mais il n'y en a pas!
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, qui fait du croix de dos.
Bon d'accord, on y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Écoutez-moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, Toupi, Toupi, Toupi.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
Ce chien ne mord que les femmes.
Ce chien, il est misogyne.
Tu risques de mourir, tu comprends?
Faut que je rentre dans la peau du chien.
Un chien, quand il mord, c'est juste pour dire non. Ça, tu peux pas.
Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité?
On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.
En tout cas, c'est un chien.
Mais quand est-ce que j'arriverai à parler comme je suis, bordel de merde.
Pour son passage derrière la caméra, Laetitia Doche signe ainsi une comédie humaniste, féministe, animaliste, politique, sociétale aussi. Présentée en sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2024, Le procès du chien s'est vu attribuer la Palme Dog pour la prestation de Cody, le croisé griffon de 10 ans, au cœur du long métrage. Ce mois-ci, retrouvez aussi le film Planétarium avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Imaginez, Paris à la fin des années 30, deux jeunes médiums américains finissent leur tournée mondiale. Fascinés par leurs dons, un célèbre producteur de cinéma les engage pour tourner un film totalement ambitieux, arrivé à montrer à l'écran le surnaturel. Prise dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l'Europe s'apprête à vivre à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale.
When are we going home?
Soon.
Tomorrow, we'll wake up in Paris. Paris.
Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommées des médiums américains, les sœurs Barlow.
Depuis que vous êtes entrée dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre pour moi.
Are we really gonna make movies?
Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirite, nous l'utiliserons tel quel.
Il faut créer de nouvelles machines, développer autrement le cinéma.
D'où venez-vous? Where do you from?
Why are you living with him?
He's an opportunity to enjoy it while it lasts.
Ce serait une première mondiale. Des images non truquées, de phénomènes paranormaux. Personne n'a jamais vu ça.
Je veux plus que tu l'approches.
You're jealous.
J'ai l'impression que t'es devenu complètement fou.
Oui, non, j'ai tenté quelque chose. Extraordinaire.
Il n'y a rien sur ces images, André.
Monsieur Korbinski, pardonnez-moi de vous appeler par votre vrai nom. Comment faire confiance en ces temps troublés à un étranger?
Ça va.
Voilà pour la bande-annonce du film Planétarium. Découvrez également plus que jamais More Than Ever sur la plateforme, un drame signé Emily Hatef. Vicky Cripps incarne Hélène, une femme atteinte d'une maladie incurable qui entreprend un voyage solitaire en Norvège pour trouver un sens à ce qui lui reste de vie.
Arrête de bouger.
toi, tu viens pas. Comme ça, t'es sûr de pas être en retard.
Ouais, ça va et toi?
C'est bien que tu sois venu.
Personne ne sait comment faire face à une situation comme ça.
Hélène.
I really like your blog. No stupid comments, like, you're so brave.
Nothing worse than being told how brave you are by a healthy person. I hate healthy person.
J'ai besoin de partir pour retrouver un peu de la légèreté, un
Mais
peu...
Mais tout ça, c'est pas possible avec moi, en fait, c'est
non.
ça
Non. Je veux faire ce voyage, même si t'es pas d'accord.
Well, if your disease doesn't kill you, my cooking surely will.
Il faut que tu regardes ça, attends. La nature.
Oh là là. Ouais. Je suis contente de t'entendre.
Je suis. Moi aussi, je suis contente. Fleur de peau, si tu savais. Je crois que j'ai compris quelque chose d'important.
C'est pas une discussion qu'on va avoir au téléphone.
Tu dis que tu veux faire ta vie avec moi, et moi je peux pas.
This is tough for him.
Je t'aime.
Porté par la grâce de Gaspard Ulliel dans son avant-dernier rôle au cinéma, ce film explore le besoin de solitude face à la mort et la puissance des liens humains. La réalisatrice Émilie Attef évoquait justement Gaspard Ulliel, tragiquement décédé quelques mois après le tournage. Il avait 37 ans.
J'aurais tant voulu qu'il le voie, le film, et qu'il soit là avec nous. J'ai été complètement ébloui par son sérieux dans le travail. Et le temps qu'il a passé sur les réflexions sur ce personnage, et écrit des notes, eu des idées. Quand j'ai vu ça, comment il cherchait, comment il travaillait, je lui ai demandé, mais donne-lui un nom. C'est lui qui a donné le nom de Mathieu. Et puis après, quand on a tourné ensemble, extrêmement concentré, extrêmement généreux, extrêmement facile à diriger, mais aussi très vivant. Il me faisait marcher tout le temps, il me faisait rire tout le temps. Enfin, complètement différent que en amont, en fin de compte.
Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties séries, cinéma, documentaires du mois de juillet sur SBS On Demand. Certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez les retrouver en juin sur SBS On Demand. C'est accessible sur notre site internet et sur les plateformes de streaming. Les films et séries dont on y parle, tout est encore accessible, bien sûr, gratuitement. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
Ah, si j'étais riche, si j'étais une célébrité, sûrement que la vie serait moins pénible et plus drôle. Si j'avais du talent, si je savais écrire et chanter, j'aurais plus de power, moi.
Un peu de temps
encore.
Voilà, c'était le chanteur Neg Marron avec cette chanson « Un peu de temps ». À l'occasion de sa troisième édition, le festival No or Never revient du 21 au 31 août avec une programmation qui mêle art, musique et technologie. Rencontre avec la directrice artistique, elle s'appelle Élise Perronnet et elle nous dévoile les coulisses de cet événement melbournien.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Nous sommes en studio avec Élise Perronnet, la directrice artistique du festival No or Never qui se déroule à Melbourne du 21 au 31 août. Bonjour Élise.
Bonjour Marianne, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, on vous a déjà interviewé il y a 2 ans, c'était le lancement du festival, maintenant c'est la 3e édition, on va en parler. No or Never, ce sont des idées, de l'art, des sons, des technologies. En somme, c'est un festival de nouvelles dimensions. Il y a de la musique, des installations, des panels de conversation, des projections de films, des collections. collections, des artistes, j'en passe. 11 jours, 140 événements, 285 artistes. Élise, je viens de faire un résumé très sommaire du festival. Vous ferez sûrement plus honneur à Now or Never en nous en parlant vous-même.
Bah oui, c'est une bonne, un bon résumé du festival, oui. Troisième édition déjà. C'est un festival qui se répand dans toute la ville, qui vraiment transforme un peu tous les grands lieux publics de Melbourne ou du CBD, avec des œuvres un peu d'envergure. Il y a beaucoup d'événements gratuits cette année. On a fait beaucoup d'événements publics pour essayer de vraiment d'activer en fait la ville du mieux qu'on peut. Beaucoup de musiciens, d'artistes numériques, des créatifs, des journalistes qui viennent aussi parler un petit peu de la technologie, de la créativité et de toutes les problématiques que ça peut engendrer, dont on parle en ce moment, l'IA notamment. Mais nous, on essaye aussi de montrer le côté un peu positif finalement de la technologie. Donc par exemple, cette année, nous avons une projection, un vidéomapping sur la façade du State Library of Victoria, tous les jours, tous les soirs, à partir de 6h du soir jusqu'à 10h du soir. Une projection d'un studio de Barcelone qui a créé cette œuvre justement avec l'IA et qui est très immersif aussi. Donc ça, ce sera projeté sur la façade de la State Library.
Comment vous avez choisi la programmation? Parce qu'il y a tellement de choses à voir durant ces 10 jours. Est-ce que vous avez fait le programme par date, par thème, par lieu?
Toujours par lieu. Je commence toujours par les lieux, c'est vraiment ce qui m'inspire. Aussi, puisque travaillant dans la ville de Melbourne, nous avons vraiment accès à des lieux assez uniques, et ça a toujours été un peu la ligne directrice du festival. Trouver des lieux et de les montrer sous un autre jour. Donc par exemple, un des lieux cette année où nous retournons au Royal Exhibition Building, qui est juste en face du Marlborough Museum. Mais cette année, nous allons présenter cette installation immersive du studio Peniqué, qui est aussi un studio de Barcelone, qui fait vraiment des installations absolument à grande échelle, vraiment intéressante. C'est une installation qui sera gratuite, qui va transformer l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un immense gonflable rose monochrome. Donc les gens pourront rentrer à l'intérieur de cet espace. Nous avons aussi un programme en fait qui va accompagner cette installation. Donc pendant certaines matinées, nous allons travailler avec The Breath House, qui est un studio qui est connu ici à Melbourne pour justement des sessions de breathwork, vraiment de relaxation, etc. Donc ça, c'est deux matins pendant le festival. Et nous avons aussi un programme nocturne avec des performances musicales, notamment d'une artiste, Roxy Moore, qui est française, qui vient de Montpellier, qui vient donc présenter une performance dans ce lieu au Royal Exhibition Building et aussi à Marlborough Town Hall.
Et on l'a dit, plus de 280 artistes. Vous avez parlé de deux artistes de Barcelone, une artiste française. Il y a aussi évidemment beaucoup d'artistes locaux. Comment vous les choisissez? Comment vous les mettez à l'honneur?
Je sais ce qui peut marcher ici à Melbourne. Une fois de plus, je pense vraiment au lieu que nous avons. Donc, je viens de parler du Royal Exhibition Building, le Marlborough Town Hall, qui est vraiment aussi un lieu qui est assez aussi unique à Melbourne et que peut-être les gens ne connaissent pas forcément, parce que souvent, il n'y a pas souvent des événements artistiques ou culturels qui ont lieu dans cette salle. Donc, là aussi, nous allons présenter un artiste qui s'appelle Boris Hackett, qui est hollandais et qui fait vraiment des œuvres cinétiques, des installations vraiment à nouveau à grande échelle, et ça a été conçu spécialement pour le Marlborough Town Hall. C'est une œuvre cinétique de 20 mètres qui mêle son et lumière, et c'est en fait un énorme textile en fait flottant qui va être synchronisé en fait à la musique. Il va aussi créer une œuvre sur l'orgue qui s'appelle le Grand Organ. Ça va être non seulement un peu le backdrop du programme musical, mais aussi une installation à part entière.
Là, vous venez de nous présenter beaucoup de nouveautés pour cette troisième édition. Est-ce qu'il y aura aussi des choses qu'on a déjà vues dans les deux premières éditions?
Non, mais c'est toujours une fois de plus revisiter peut-être des lieux que nous avions présentés l'an dernier, mais sous d'autres formes.
D'accord, donc c'est vraiment une édition inédite, un nouveau festival Now or Never comme on l'a jamais vu. Sur notre antenne en 2023, vous disiez, c'était la première édition de Now or Never, vous lanciez votre nouveau festival, vous disiez que votre ambition c'était de vous insérer dans le programme culturel de Melbourne qui était déjà riche. Paris réussi.
Oui, Melbourne, c'est pour ça qu'on aime cette ville. C'est une ville qui est vraiment charmante de ce côté-là, avec tellement de festivals toute l'année. Même le programme en hiver est aussi assez chargé. Oui, je pense qu'on a réussi, j'espère, en 2-3 ans, à vraiment s'imposer dans une autre optique et de présenter quelque chose de vraiment nouveau. Pour nous, c'est vraiment devenir une plateforme un peu globale pour des artistes locaux et internationaux qui utilisent la technologie dans leurs œuvres, dans leur création.
On sent l'humilité dans votre voix, Élise, mais en 2 ans quand même, il faut le dire, hein, 400 000 personnes attendues cette année, c'est le double de ce que vous attendiez la première année. 14,6 millions de dollars de recettes l'année dernière, 1000 emplois créés juste pour l'occasion. On peut quand même parler d'une véritable success story, non ?
On verra cette année, on verra. J'espère que les gens viendront. On essaie de vraiment d'avoir un programme qui est accessible aussi dans un sens. Je parle vraiment de l'art et technologie. Ça peut paraître un peu hermétique peut-être au public, mais justement, on essaie vraiment de placer des œuvres vraiment au centre de la ville et des œuvres gratuites pour que les gens puissent vraiment venir et voir un peu Melbourne sous un nouveau jour peut-être.
Et justement, vous parlez de Melbourne, puisque c'est un festival qui se déroule à Melbourne. Vous avez une volonté à plus long terme de vous exporter au-delà de Melbourne ?
Je sais pas de s'exporter, mais nous travaillons vraiment en collaboration avec beaucoup de festivals qui sont à l'étranger, donc à Berlin, Sonar, un festival à Barcelone. Nous avons vraiment des réseaux, nous essayons de partager des œuvres entre les différents festivals. Effectivement, l'ambition dans le futur et pour l'an prochain aussi, c'est de créer des nouvelles œuvres ici et de pouvoir, avec des artistes locaux, et de pouvoir faire voyager ces œuvres justement à l'étranger et de les présenter dans ces festivals.
Vous avez évoqué l'édition 2026 et en 2023, vous nous disiez que ça faisait déjà un an et demi que vous travailliez sur l'édition 2023. Est-ce que vous avez déjà les yeux rivés sur l'année prochaine ou là, vous êtes totalement concentré sur le festival 2025?
Ah oui, ça paraît un peu dingue et un peu pas vraiment logique, mais effectivement, non, vraiment, c'est 2026 et des fois même déjà 2027, ce qui paraît un peu dingue, mais c'est ça, c'est de faire un peu la gymnastique de pouvoir continuer à se concentrer sur cette année et aussi de pouvoir réfléchir à l'an prochain. Nous avons des artistes qui vont venir cette année qui vont peut-être pouvoir présenter quelque chose dans le futur. Donc c'est vrai que ça se planifie longtemps à l'avance, ce genre de festival.
Et j'ai une dernière question, Élise, c'est sur l'empreinte écologique d'un festival. On sait que écologiquement, un festival, ça peut être assez désastreux, mais Now or Never essaie quand même de faire un pas en avant sur ce sujet.
C'est vrai que c'est un objectif aussi principal de la mairie de Melbourne d'avoir des objectifs pour limiter l'empreinte carbone Now or Never et certifié carbon neutral. Donc dans le cadre du Climate Active Program qui est financé par le gouvernement australien. Donc effectivement, c'est un travail assez laborieux avec tous nos partenaires de pouvoir faire l'inventaire de toutes les consommations énergétiques et consommations de manière générale après le festival. Donc tout ça est recensé dans un sens et ensuite est offset.
Élise Perronnet, vous êtes la directrice artistique du festival Now or Never, on le rappelle. Ça se déroulera à Melbourne du 21 au 31 août 2025. Merci beaucoup.
Merci Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Peut-être avez-vous reconnu sa voix, la jeune chanteuse française Louane. Elle représentait la France à l'Eurovision, pas avec cette chanson, avec la chanson Maman, mais elle n'a pas gagné. La chanson que vous venez d'entendre, quant à elle, s'appelle La pluie. Il y a 2 semaines, il y avait la signature de l'accord de Bougival entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Nous faisions le point avec Brigitte Wapp, elle est journaliste à la chaîne de télévision Nouvelle-Calédonie La Première, à Nouméa, et elle nous parlait de la réaction des néo-calédoniens suite à cet accord.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Ce lundi 14 juillet, jour de la fête nationale et deux jours après la signature de l'accord de Bougival, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte Wap de la chaîne de télévision Calédonie La Première pour nous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie après la signature de cet accord historique. Brigitte, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour à vous aussi.
Et voilà, grosse surprise, l'accord de Bougival a été signé. Comment cet accord a-t-il été perçu en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, on peut dire que pour les retours que l'on a pu avoir dans la population en général, je pense qu'une majorité, pour une majorité de la population, c'est un grand ouf de soulagement parce qu'enfin un accord a été trouvé, enfin on va pouvoir se projeter sur l'avenir, dans l'avenir, enfin on a une visibilité sans date butoir comme a pu l'être l'accord de Nouméa avec ses référendums pour l'autodétermination. Donc il n'y a pas ce référendum dans ce pré-accord, mais on va dire que pour les Calédoniens en général, c'est un ouf de soulagement. Et bien sûr, pour les militants des deux bords, indépendantistes et non-indépendantistes, par contre là, pour certains, c'est la douche froide, notamment du côté indépendantiste où on s'attendait à ce qui est peut-être quelque chose de plus poussé vers l'indépendance avec plus de souveraineté, même s'il y a dans l'accord la nationalité, en plus une double nationalité qui est la nationalité calédonienne qui vient s'adosser à la nationalité française, qu'il y ait les compétences des relations extérieures qui soient données à la Nouvelle-Calédonie, qu'il y ait quand même une possibilité dans l'avenir d'évolution, parce que le statut pour l'instant n'est pas rédigé, il faudra rédiger une lettre, une loi fondamentale, donc il y a encore une ouverture des possibles. Mais pour les militants, et notamment les gens de la CCAT qui s'étaient mobilisés, et pour ceux qui ont été emprisonnés, c'est avoir abandonné cette idée d'indépendance encore une fois. Il y en a qui se sentent trahis, il y en a qui se sentent fâchés. Du côté des non-indépendantistes et des militants purs et durs, c'est également un peu la douche froide pour certains qui pensaient qu'ils vont rester dans la France, uniquement pas devenir un État. Devenir un État, c'est aller trop loin pour certains qui pensaient pouvoir rester dans la France, rester français sans être un État. Donc pour l'instant, on va dire que c'est globalement assez bien perçu, mais que dans les deux bords, il y a des gens qui se sont sentis trahis. Donc beaucoup disent qu'il faut attendre le retour de ceux confinés qui vont faire des tournées pour informer la population des enjeux, de pourquoi ils ont voté et qu'il faut attendre. Mais déjà, il y a des menaces qui pèsent sur eux. Comme l'a très bien dit Emmanuel Tubao dans une interview, on se fait déjà insulter et menacer. Donc, à voir dans les jours à venir. Mais je pense que du côté aussi du monde économique, puisqu'il y a tout un volet économique dans cet accord, c'est aussi un ouf de soulagement pour la reconstruction, pour une relance de l'économie. Et c'est ce qu'on dit, on va dire, les loyalistes, lorsqu'ils ont signé, c'est qu'il puisse y avoir cette relance économique également.
Et justement, un accord qui, disons, coupe la poire en deux, est-ce que cela ne risque pas de raviver les tensions entre les indépendantistes et les pro-France ?
Et ça peut raviver les tensions, mais est-ce que on peut revenir à ce qui s'est passé l'année dernière ? Je suis pas sûre. Il y a le champ des possibles qui est ouvert, mais... est-ce que c'est dans l'intérêt? Est-ce que la majorité des Calédoniens veulent la paix ou la majorité veulent la guerre? Il y a ça aussi hein, derrière tout ça. Je pense qu'il y a une large majorité des Calédoniens qui veulent la paix. Maintenant, ceux qui étaient engagés des deux côtés très fortement l'année dernière, ce sont ceux-là qui se sont trahis. Effectivement, est-ce qu'ils ont la possibilité de faire monter crescendo les tensions? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Je ne sais pas. Ça reste une grande question. De toute façon, on est dans ces questions-là depuis les émeutes de l'année dernière. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va rester tel quel? Mais il y a tout un volet économique pour justement accompagner l'économie du territoire qui a été fortement touchée par les émeutes de l'année dernière.
Et les États voisins, est-ce que vous avez un retour ou c'est encore trop tôt? On ne sait pas encore comment.
C'est un peu tôt, mais j'ai vu les réseaux sociaux. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande a posté, je crois, sur Twitter quelque chose en disant félicitations pour cet accord à la Nouvelle-Calédonie. Donc, à partir du moment où il y a un consensus, comme ça s'est passé pour l'accord de Nouméa, d'une façon générale, c'est accepter le fait qu'il y ait un consensus entre l'indépendantiste et non-indépendantiste, c'est généralement bien perçu par la région, parce qu'il y a eu un accord des deux côtés, en fait, quelque chose d'équilibré. Mais bien sûr qu'une grande partie des pays de la région soutiennent les indépendantistes, donc si les indépendantistes sont signés, c'est une bonne chose en général.
Je suis en train de consulter un journal local qui résume cela en deux points. Il dit qu'en apparence, la France reste là. Dans les faits, elle se retire pas à pas. Et le deuxième point, c'est qu'en apparence, le peuple est souverain. En réalité, il ne votera plus. Donc, il n'y aura plus de vote ou de référendum.
Pour l'indépendance. Oui. Voilà. Mais c'est ça ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que chacun, tout le monde interprète cet accord en fonction de ses propres opinions. Si tu es plus pour l'indépendance, bah, tu vas dire bah, non, ça n'apporte pas la souveraineté. Mais si tu es contre l'indépendance, tu vas dire il y a trop de souveraineté. En fait, c'est là où la poire elle est coupée en deux. Parce qu'il y en a pour chacun des deux parties. Et en même temps, c'est quand même. Là, il y a eu un communiqué du FLNKS qui vient d'arriver aujourd'hui, qui disent que c'est la marche vers la souveraineté. Parce que même s'il n'y a pas un référendum de sortie comme il y avait à l'accord de Nouméa, il y a quand même la possibilité, moi j'ai lu les documents, il y a quand même la possibilité pour les élus du Congrès, notre Parlement local, de demander le transfert des compétences régaliennes à un moment ou à un autre. Parce que la France garde des compétences régaliennes, c'est-à-dire la défense, la monnaie et la justice, sauf les relations extérieures qu'elle donne à la Calédonie. Mais quand même ça reste quand même sous l'identité française. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il conclue des accords qui vont à l'encontre des intérêts de la France. Donc, c'est la seule chose qu'il lâche. Mais après, dans le reste, la France garde toutes les compétences régaliennes.
Et c'est là que je vois une source de friction potentielle, compétences en matière de relations extérieures, donc attribuées à la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut signaler quand même que c'est une région qui est riche en matières premières et donc il pourrait y avoir des conflits. Pouvoir signer des accords avec des pays étrangers qui convoitent les ressources premières. Donc est-ce que la Nouvelle-Calédonie garde des compétences en matière de ressources naturelles?
Mais si, elle a ses compétences en matière de ressources, hein.
Ah,
elle a les compétences en matière de ressources. Depuis l'accord de Nouméa, c'est la Calédonie qui décide des exportations, c'est la Calédonie qui décide, il y a une compétence locale des ressources. Et accolé à cet accord, il y a un plan économique de relance, mais dedans, il parle du nickel aussi, et que de l'évolution que doit justement prendre le nickel par rapport à ce qui s'est déjà fait aujourd'hui en Calédonie. Que l'État va aider à relancer la production du nickel dans le Nord, c'est-à-dire que l'usine du Nord qui est pour l'instant au sommeil, j'imagine que ce que ça veut dire, c'est que l'État va aider la province Nord à trouver un repreneur. Et je pense qu'il va mettre peut-être la main à la poche, comme elle l'a fait pour la SLN, par exemple.
D'accord. Et enfin, on va nous quitter quand même, c'est le 14 juillet, fête nationale. Quelle est l'ambiance à Nouméa et en Nouvelle-Calédonie en général en ce jour de fête nationale?
Alors le jour de fête nationale, c'est en Calédonie, c'est toujours très éloigné de la France, donc ça reste pour beaucoup le moment d'aller regarder des défilés. Mais c'est, il y a pas énormément de monde. Ce matin, il y avait pas énormément de monde, mais il y a jamais, je trouve, énormément de monde à un défilé du 14 juillet. C'est pas nouveau en fait. C'est juste un long week-end où il y a des gens. En plus, il fait beau aujourd'hui, où il y a des gens qui ont profité pour faire un tour. Voir les familles, donc c'est assez calme, ça reste à une ambiance d'un jour férié. Et pour ceux qui vont participer au défilé, voilà, c'est toujours un peu le moment où on emmène les enfants voir les véhicules blindés, et peut-être qu'il y a un peu plus de militaires vu que nous avons quand même beaucoup de forces de l'ordre depuis les émeutes de l'année dernière.
D'accord, donc une ambiance plutôt festive et bon enfant.
Oui, voilà, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Je pense que les gens essayent pour l'instant de comprendre un peu cet accord. peut-être parce qu'il est quand même complexe, pas si simple à... Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est des principes qui ont été signés dans cet accord. Et après, il y a une loi fondamentale qui doit être votée. Avant la loi fondamentale, il va y avoir un référendum pour les Calédoniens de se prononcer. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils vont se prononcer s'ils sont pour ou contre cet accord. Donc, il y a quand même plusieurs étapes avant d'arriver à la mise en place des nouvelles institutions telles que pensées là dans cet accord-là.
En tout cas, un beau petit cadeau pour une fête, donc pour les deux côtés, ouais. Un cadeau, quelque chose pour réfléchir là-dessus, donc une forme de dénouement.
Le bout du tunnel.
Ouais, voilà, un bout du tunnel, oui. Brigitte Wap, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions, de donner un point sur la situation de Nouvelle-Calédonie, comme ça, à chaud. Merci infiniment.
Merci à vous. Au revoir.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Daniel Balavoine sur les ondes de Radio SBS avec cette chanson « Dieu, que l'amour est triste ». C'est la fin de cette émission, messieurs, dames, merci beaucoup de l'avoir suivie, merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou en partie sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je serai au rendez-vous et je vous souhaite d'ici là de passer un très beau samedi. À demain, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.